Bonjour Jean-Jacques Bridet.
Bonjour Frédéric Rivière.
Diriez-vous que la fête nationale a été au moins en partie gâchée par les incidents qui se sont produits hier en marge du défilé ?
Je trouve ça un peu déplorable qu'en ce jour de fête nationale, un jour de concorde normalement, il y ait une sorte d'irrespect de la République, de l'institution républicaine et de la fonction présidentielle. Le défilé du 14 juillet, cette journée symbolique pour notre République, était placée sous le signe de « agir ensemble ». Et nous reviendrons sûrement sur l'initiative européenne d'intervention. Mais l'autre volet, c'était notre hommage et notre soutien à nos soldats blessés et aux familles de nos soldats décédés. Dans une communion importante, dans un respect de la souffrance et du deuil. Et cela, ça a été gâché par l'attitude de certaines personnes irresponsables qui se réclament des gilets jaunes. C'est inacceptable, c'est intolérable et je le dénonce très fermement.
Est-ce que si ça a pu se produire, c'est qu'il y a eu des failles dans le dispositif de sécurité ?
Je ne sais pas, on peut pas contrôler toutes les personnes qui voulaient assister à cette fête nationale. Ils étaient des milliers, nombreux, il y avait effectivement des dispositifs de contrôle, de fouilles, etc.
Ouais, c'est quand même un jour très particulier où, en principe, le dispositif doit être particulièrement renforcé.
Il était renforcé. Nous, par exemple, de l'Assemblée, on pouvait pas y aller en voiture, on y est allé à pied avec un contrôle au niveau des ponts sur la Seine. Donc effectivement, il y a eu de forts contrôles, mais bon, on peut pas... certains individus avaient peut-être déposé du matériel quelques heures avant ou le jour précédent, donc on ne peut pas savoir.
Président de la République sifflé, hué au moment où il défile sur les Champs-Élysées, c'est une image assez terrible, ça.
Bah c'est terrible.
Surtout un 14 juillet.
C'est terrible pour tout le monde, c'est terrible. Il n'y a plus de respect de la fonction du président de la République de la part de certains de nos concitoyens.
On peut contester le président de la République, on peut éventuellement le huer, mais pas le 14 juillet, c'est ça ?
C'est la fonction que l'on eut, c'est pas le personnage. Président de la République...
Dans l'esprit de ceux qui le font, c'est pas sûr, ça.
Bah, quand le président de la République... Non, parce qu'on peut critiquer l'action d'un président de la République, comme toute politique, mais on ne peut pas constamment le huer. Regardez tout ce qui a été fait... comme au niveau du débat national, du grand débat, au niveau des mesures sociales qui ont été prises. Et aujourd'hui, on a quelques centaines d'individus qui contestent toujours. Rien ne les fera arrêter, si ce n'est la fermeté.
Dans son discours aux armées samedi, Emmanuel Macron a annoncé que pour assurer le développement et le renforcement de nos capacités spatiales, un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain au sein de l'armée de l'air, qui deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. Alors de quoi va-t-il s'agir exactement ?
C'est une excellente nouvelle qui était attendue par l'ensemble des armées et l'ensemble des députés de la Commission. Le président de la République avait lancé ce chantier, cette idée-là de réforme, il y a juste un an, dans son discours précédent à l'hôtel de Brienne. Des rapports lui avaient été remis à la fin de l'année. Nous-mêmes, nous étions saisis du sujet. Une mission d'information avait été créée, avait déposé son rapport. Donc des propositions faites par la ministre des Armées, Florence Parly, au président de la République, qui a tranché en février. Donc ces annonces étaient connues, mais on attendait l'expression publique pour des raisons d'ailleurs de gilets jaunes et ensuite d'élections européennes. Ça avait été retardé et nous attendions ce jour. Mais maintenant, nous attendons les précisions pour cette mise en œuvre de cette armée de l'air et de l'espace. Ça ne veut pas dire que l'espace est un lieu de conflictualité. Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, nous devons sécuriser nos satellites, nos armées.
C'est ça, tout l'enjeu de cette affaire, c'est la protection des satellites.
Oui, parce que nos armées ont besoin des satellites pour être sur le terrain, pour recevoir des informations, pour connecter les soldats avec leurs différents équipements. Si aujourd'hui, on veut déployer un drone pour faire du repérage de djihadistes, par exemple, au Sahel, si on veut intervenir rapidement parce qu'il y a une menace, eh ben on a besoin des satellites. Et si un État ou un groupe vient neutraliser notre satellite, nous sommes aveugles sur le terrain. Donc il faut sécuriser ces satellites, et donc il faut sécuriser nos troupes avec les satellites et par les satellites.
Oui, et les satellites ne sont pas réservés à l'armée. Enfin, je veux dire, ils ont aussi des applications civiles quotidiennes pour tout le monde. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants de souveraineté dans les moyens de communication. Et aujourd'hui, il y a des menaces sur les satellites. Si on estime qu'il faut créer ce commandement de l'air et de l'espace, c'est qu'il y a des menaces, non ?
Alors, les menaces sont de plusieurs types. Il y a de plus en plus de débris, par exemple, dans l'espace. Ouais. Donc ça peut être un débris qui vient rentrer en collision avec un de nos satellites et le détruire ou l'endommager. Mais ça peut être une menace étatique. Ouais. Nous avons pu voir...
On soupçonne aussi des satellites, par exemple, chinois, qui seraient capables d'intercepter d'autres satellites, ou un satellite russe qui serait ce qu'on appelle un satellite kamikaze, c'est-à-dire capable d'aller détruire un autre satellite.
On peut tout imaginer.
Donc la guerre de l'espace, on y est quasiment en fait.
La France ne raisonne pas en guerre de l'espace. Ouais. Mais la France veut sécuriser l'espace. Parce que nous avons besoin de l'espace pour nos usages quotidiens, par exemple le téléphone, les GPS, etc. Ouais. Mais aussi pour la sécurité de nos soldats.
Alors plusieurs dirigeants européens étaient présents hier dans le cadre de ce que vous avez évoqué au début de notre entretien, l'initiative européenne d'intervention. Pourquoi la France tient-elle tellement à faire avancer cette Europe de la défense qui était un peu un serpent de mer tout de même, mais est-ce que c'est d'abord un souci économique ? Est-ce que c'est l'objectif, c'est la mutualisation d'un certain nombre de moyens et donc des économies ?
C'est un souci surtout de souveraineté européenne.
Ouais, mais la souveraineté française est importante aussi, non ?
Oui, mais le président de la République a lancé cette idée il y a un an. Personne n'y croyait. Un an après...
Enfin, l'Europe de la défense, ça date bien avant Emmanuel Macron.
Je ne parle pas de l'Europe de la défense. Je parle d'initiative européenne d'intervention. Ouais. C'est-à-dire partager une culture stratégique entre plusieurs pays et faire en sorte que si nous avons besoin d'opérer ensemble, nous puissions le faire d'une manière la plus efficace possible. Ça peut être au niveau d'une catastrophe naturelle. Ça peut être au niveau d'une intervention parce qu'il y a une épidémie ou une pandémie sanitaire dans telle ou telle région, etc. Ça peut être aussi pour des causes de sécurité. Aujourd'hui, 9 pays ont décidé de travailler ensemble. Je sais que 2 ont demandé l'adhésion et qu'un troisième réfléchit. Donc l'an prochain, on sera peut-être 12-15, c'est-à-dire la moitié des pays européens qui travailleront ensemble au niveau des états-majors, au niveau des équipements, au niveau des capacités. Et progressivement, on pourra élargir le champ pour aller vers une coopération industrielle, une coopération capacitaire, une coopération d'intervention, comme l'on dit. Donc c'est quelque chose d'important. Je pense que cette initiative, qui est effectivement portée par la France au départ, est actuellement portée par beaucoup de pays européens.
Mais le point ultime de cette initiative, dans un scénario idéal, ce serait quoi ?
Ça serait pouvoir intervenir ensemble sur un théâtre d'opération.
Il ne s'agit pas de constituer une armée européenne.
Le président de la République a employé ce mot armée européenne, mais c'est un concept qu'il faut définir non pas avec des soldats européens, mais avec une capacité pour certaines armées de constituer effectivement une armée intervenant sur un théâtre d'opérations militaires, mais aussi de sécurisation d'un environnement, de secours à des personnes qui ont soumis à une catastrophe, pas nucléaire, mais catastrophe naturelle, ou même une pandémie.
Vous avez évoqué la souveraineté européenne. Ce projet peut avancer et aller à son terme sans perte de souveraineté nationale, qui est importante en matière militaire, évidemment.
Mais il y a des pans de notre souveraineté nationale que nous ne partagerons pas. Par exemple, le nucléaire, la dissuasion nucléaire. Par exemple, aujourd'hui, on réfléchit sur le porte-avions, mais le porte-avions, le prochain qui remplacera le Charles de Gaulle, sera un porte-avions franco-français. Celui d'après, dans 50 ans, il sera peut-être européen. Donc il faut y aller pas à pas. Il faut que chacun puisse conserver son autonomie stratégique, mais qu'il puisse aussi partager certains pans de cette autonomie pour construire une autonomie stratégique européenne. C'est ça le but.
Merci Jean-Jacques Bridet.
Voilà, merci Frédéric Rivière.